Vous écoutez, on lit pour vous.
La moitié des visites aux urgences sont des cas non urgents. Un texte de Marie-Ève Cousineau, paru le 14 février 2025 dans la presse. Santé Québec invite les gens à se poser les bonnes questions avant de se rendre dans les urgences, qui atteindront bientôt leur pic hivernal. Selon la Société d'État, la moitié des patients qui s'y présentent sont des cas non urgents. Parmi eux, 70 % ont un médecin de famille. Les urgences continuent de déborder au Québec. Les visites quotidiennes y ont augmenté de 5 % entre le 28 janvier et le 10 février 2025, par rapport à la même période en 2024, selon Santé Québec, qui a donné un point de presse hebdomadaire le vendredi 14 février 2025. Cela représente 500 visites supplémentaires par jour. Pour alléger la pression sur les urgences, Santé Québec invite les patients ayant des problèmes non urgents à consulter leur pharmacien ou à contacter la ligne téléphonique InfoSanté 811, option 1, qui pourra les diriger vers la bonne ressource. Vous avez probablement déjà entendu que le 811 nous réfère toujours aux urgences et que ça ne donne pas grand-chose. C'est faux, dit Robert-Marie Coleman, vice-présidente adjointe coordination de l'accès des trajectoires de soins à Santé Québec. Du 5 au 11 février, le tiers des personnes ayant contacté InfoSanté ont été dirigées vers les urgences, précise-t-elle. Un autre tiers a eu des recommandations pour se soigner à la maison et un autre tiers a été dirigé vers un médecin, un pharmacien ou une autre ressource pertinente, ajoute-t-elle. Et les médecins de famille? Offrent-ils davantage de rendez-vous? Selon Santé Québec, le nombre de consultations médicales offertes par la première ligne a augmenté de 5 à 10 % par rapport à la même période en 2024. Congestion hospitalière. Le Dr Gilbert Boucher, président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec, croit que la première ligne pourrait en faire plus. Mais il réitère que le principal problème des urgences demeure la congestion hospitalière. Des patients restent coincés aux urgences faute de place aux étages. Ça fait 3 semaines que sur l'île de Montréal, il y a 20 ou 25 % des civières où les patients sont là depuis plus de 48 heures. Selon Santé Québec, le taux moyen d'occupation sur civière a atteint 121 % entre le 28 janvier et le 10 février 2025, contre 113 % durant la même période en 2024. À Montréal, ce taux était de 145 % contre 125 %. Si la tendance se maintient, on devrait atteindre un sommet au niveau du taux d'occupation sur civière au cours de la prochaine semaine, affirme Mme Robin-Marie Coleman. L'avenir nous dira si le pic d'influenza sera aussi atteint à ce moment, dit le directeur national de santé publique du Québec, le Dr Luc Boileau, aussi présent au point de presse. L'activité grippale est forte cette année. Le taux de positivité s'élevait à 32 % pour la semaine se terminant le 8 février, d'après l'Institut national de santé publique du Québec. Le Dr Boileau encourage une fois de plus les gens vulnérables à se faire vacciner. Le vaccin a une efficacité relativement comparable à celui des années précédentes. Il dépasse le 54 %, ce qui est très bon pour l'influenza. La rougeole se propage. Les autorités de santé publique dénombrent maintenant 22 cas de rougeole au Québec. Ceux-ci sont liés à une éclosion qui s'est déclarée en décembre dans les Laurentides. Notre inquiétude, c'est qu'il commence à y avoir des cas où on a de la misère à les lier à d'autres, dit le docteur Boileau. Ça veut dire que ça peut circuler un peu dans la communauté. Les bébés âgés de moins d'un an sont à risque de complications s'ils la contractent. Très contagieuse, la rougeole peut entraîner la perte de la vue ou de l'ouïe des dommages permanents au cerveau et même la mort. La santé publique invite la population à se faire vacciner, ce qui reste la meilleure façon de se protéger de la maladie. C'était « La moitié des visites aux urgences sont des cas non urgents », un texte de Marie-Ève Cousineau, paru le 14 février 2025 dans La Presse.
Des bouchers à Benaki, au service de leur communauté, un texte de Mathieu Max Gessler, paru le 17 février 2025 dans Le Nouvelliste. C'est dans le but de renforcer l'autonomie alimentaire de leur communauté que sept Abénakis d'Odanak et de Wolinak ont entamé, il y a bientôt 14 semaines, une formation en boucherie au Centre de formation professionnelle Bel Avenir à Trois-Rivières. Plus précisément, ce sont les viandes sauvages que les étudiants ont appris à découper. Puisque, dans les deux communautés, on compte de nombreux chasseurs et pêcheurs, le Conseil de la Nation Wombanaki jugeait intéressant de leur donner l'occasion d'apprendre à transformer eux-mêmes leur gibier. On a vu plusieurs bouchers prendre leur retraite ces dernières années. On avait de moins en moins d'endroits où on pouvait aller transformer la viande. On s'est dit, soit on fait de nouveaux partenariats, soit on va chercher les connaissances pour la transformer nous-mêmes, résume Samuel Dufour-Pelletier, directeur du Bureau de l'environnement et terre d'Odanak. Ça va permettre d'être plus autonome en ressources alimentaires. C'est pour ça qu'on a lancé l'appel à l'ensemble de la communauté. Ça va aussi permettre de diversifier les produits faits avec le gibier, ajoute Vanessa Fortin-Castonguet, directrice du Bureau de l'environnement et terre de Wolinak. Redistribution dans la communauté. Du côté du Centre de formation professionnelle Bel Avenir, on indique que la formation a été adaptée aux besoins formulés par le Conseil de la Nation Wombanaki. Il a fallu adapter les locaux, puisque si on transforme du gibier dans un endroit, on ne peut pas s'en servir pour transformer d'autres viandes. Il a aussi fallu trouver un formateur en gibier et viande sauvage, explique Étienne Lafont, enseignant en boucherie et planificateur de la formation. Les participants ont amené le gibier qu'ils ont chassé et ont appris à le transformer de différentes façons. La viande a ensuite repris la route des deux communautés pour être redistribuée aux personnes dans le besoin. Une partie a également été conservée en vue des prochains pow-wow. Les participants ont aussi pu apprendre les méthodes pour fileter différents poissons. Cette partie de la formation a été donnée par l'entreprise bécancouroise Simer International. Joindre l'utile à l'agréable. Pour Dominique M. Sadoc, cette formation a été l'occasion d'accomplir un rêve. Le gardien du territoire explique avoir longtemps voulu étudier en boucherie. Ça a toujours été une passion. Mais le salaire que ça m'aurait rapporté n'était vraiment pas intéressant pour tout le travail que ça implique. J'ai préféré me former en machinerie lourde. Puis, il y a 3 mois, j'ai eu l'opportunité de devenir gardien du territoire. Et ça m'a permis de suivre la formation, raconte-t-il tout en emballant de fines tranches de chevreuil pour de la fondue chinoise. En tout, 2 des 5 gardiens du territoire du Conseil de la Nation Wombanaki participaient à cette formation. Ils ont été rejoints par quelques employés des bureaux de l'environnement et terre d'Odanak et de Wolinak, dont Cynthia Godet. « Je chasse et je pêche depuis que je suis petite. Je trouve ça enrichissant pour le travail, mais aussi sur le plan personnel, explique-t-elle. La jeune femme espère également pouvoir économiser en transformant elle-même la viande qu'elle chasse. À la boucherie, pour un ours, ça coûte 625 $. C'est quand même beaucoup, souligne-t-elle. À ses côtés, Pierre Gauthier demeurait concentré sur sa découpe, malgré les questions des journalistes. Il convient que les frais de découpe ne cessent d'augmenter. On parle de 250 $ par chevreuil. Et c'est 35 $ de plus si la peau est encore dessus. Ça monte tous les ans, confirme-t-il. C'est donc pour économiser, mais surtout par passion, que le retraité est venu suivre cette formation. J'adore cuisiner. C'est moi qui fais tous les repas à la maison. J'aime organiser des méchouis, à être avec le monde, explique-t-il. Les 7 étudiants termineront leur formation le 18 février. Espace de transformation à venir à Odanak. Une fois tout ce monde formé, il restera à trouver un endroit pour leur permettre de transformer la viande chassée dans les 2 communautés. On va avoir un espace dédié à la boucherie. On travaille là-dessus. Mais ça va aller dans un horizon de 0 à 2 ans, indique Samuel Dufour-Pelletier. Le Bureau de l'environnement et terre de Wolinac caresse la même ambition. C'est aussi le souhait qu'on a d'avoir un tel espace. Mais on est un peu moins avancé dans les démarches, indique Vanessa Fortin-Castonguay. Et du côté du Centre Bel Avenir, la formation pourrait-elle intéresser d'autres publics, pas forcément des Premières Nations? Assurément, oui. Il y a une grosse vague d'autosuffisance en ce moment, des gens qui élèvent 2 ou 3 cochons chez eux, des poulets, un bœuf. De s'engager pour 168 heures de formation, ça fait peut-être trop pour eux. Mais pour des formations plus ciblées, il y aurait sûrement beaucoup de gens que ça intéresserait, avance Étienne Lafont. C'était « Des bouchers Abénaki au service de leur communauté », un texte de Mathieu Max Gessler, paru le 17 février 2025 dans Le Nouvelliste.
Les droits des femmes hier et aujourd'hui. Connaître notre histoire collective et aller de l'avant. Un entretien avec Rabea Nassiri, paru le 24 février 2025 sur la page d'ONU Femmes. Rabea Nassiri, du Maroc, nous entretient sur sa participation à la 4e conférence mondiale sur les femmes qui s'est tenue à Beijing en 1995 et sur la pertinence actuelle du programme d'action de Beijing. Mot-clic pour toutes les femmes et les filles est un nouvel appel à l'action à l'occasion du 30e anniversaire de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing. Rabea Nassiri, militante marocaine des droits humains, experte en matière de genre et de droits des femmes, nous parle de la lutte permanente en faveur de l'égalité des sexes. La Déclaration et le Programme d'action de Beijing, un tournant pour les droits des femmes. Lorsque Rabea Nassiri, experte marocaine en droits humains, a assisté à la 4e conférence mondiale sur les femmes de Beijing en 1995, elle savait que cette rencontre constituait un tournant pour les droits des femmes. « J'ai été gagnée par l'élan international qui est né à la suite de la conférence de Nairobi », a-t-elle déclaré. Une série de conférences mondiales et de réunions organisées en amont et divers mouvements féministes ont ouvert la voie à la conférence et à l'accord international qui en a découlé. La déclaration et le programme d'action de Beijing ont été approuvés par 189 pays et des milliers de représentants de la société civile. Rabea Nassiri se souvient que des activistes féministes d'Algérie, du Maroc et de Tunisie se sont regroupés en un collectif pour plaider en faveur de réformes du droit de la famille dans leur pays et dans le monde. Pour elles, la conférence de Beijing a été une étape majeure dans leur quête d'égalité, de droit et de justice. cette conférence a permis de tirer des enseignements précieux, d'élargir les alliances et de renforcer la solidarité, explique-t-elle. L'adoption du programme d'action a représenté un tournant, car elle s'est accompagnée d'un cadre d'action et d'un engagement direct des États à élaborer et à mettre en œuvre des plans d'action nationaux. Ces plans d'action nationaux sont porteurs de changements grâce à l'allocation de ressources pour l'exécution des politiques et des programmes. Au Maroc, le plaidoyer et les engagements pris lors de la conférence de Beijing en 1995 ont abouti à la réforme historique de son droit de la famille. Avant son entrée en vigueur, l'annonce du nouveau Code de la famille du Maroc a été faite officiellement par le gouvernement en 2004. Il contient un certain nombre de dispositions progressistes en faveur de l'égalité des sexes, telles que l'augmentation de l'âge du mariage à 18 ans pour les hommes et les femmes, la pénalisation de la violence domestique, l'égalité des droits de garde des enfants accordés au père et à la mère, et la fin de la tutelle exercée sur les femmes par les membres masculins de la famille. Défi pour les droits de la femme hier et aujourd'hui. Rabea Nassiri rappelle que l'un des plus grands défis auxquels les féministes étaient confrontés à l'époque de la conférence de Beijing était l'instrumentalisation de la religion pour rejeter l'égalité dans le droit de la famille et la résurgence du conservatisme au nom de la religion. Depuis 1995, de nombreux progrès ont été réalisés en matière d'égalité des sexes et de droits des femmes au Maroc et dans le monde. Elle souligne d'ailleurs que cette question est désormais au cœur des débats sociaux et politiques au Maroc. Les politiques publiques sont de plus en plus analysées à travers le prisme du genre, affirme-t-elle, ajoutant cependant que le populisme, les stéréotypes sexistes et la montée du conservatisme sont le terreau des régressions actuelles. Ce que la déclaration et le programme d'action de Beijing peuvent nous apprendre aujourd'hui. Le programme d'action de Beijing reste plus que jamais pertinent pour les féministes et les activistes des droits humains comme Rabea Nassiri. Mais c'est l'engagement en faveur de sa mise en œuvre qui doit être renouvelé, déclare-t-elle. Interrogée sur les enseignements tirés de la conférence de Beijing en 1995 qui demeurent pertinents pour les mouvements féministes, elle a eu cette réponse. Le principal enseignement est lié à l'importance du dialogue intergénérationnel et des échanges pour renforcer l'apprentissage, la compréhension et de la solidarité féministe, et ainsi pouvoir collectivement remettre en question le patriarcat. Aujourd'hui, elle appelle les jeunes féministes à connaître notre histoire collective et aller de l'avant. C'était « Les droits des femmes hier et aujourd'hui », connaître notre histoire collective et aller de l'avant. Un entretien avec Rabea Nassiri paru le 24 février 2025 sur la page d'ONU Femmes.
Aucune des grandes compagnies de cirque du Québec n'a les moyens de créer un nouveau spectacle en 2025. Un texte de Catherine Lalonde paru le 10 février 2025 dans Le Devoir. Le cirque québécois demeure dans notre imaginaire un art riche et lucratif. Or, sur le trampoline, le trapèze, le fil de fer et dans les salles d'entraînement, la réalité est plus rude. L'argent manque. La pandémie a cassé le circuit des tournées à l'étranger qui permettait au cirque d'ici de vivre sans dépendre de l'argent public. Les montages financiers ne sont plus équilibrés, au point où aucune des grandes compagnies du Québec n'a les moyens de créer un nouveau spectacle en 2025. C'est ce que révèle le « Mémoire sur les arts du cirque au Québec » présenté au ministre des Finances, Éric Girard, en novembre 2024, qui a été rédigé par En Piste, le regroupement national des arts du cirque. Aucune nouvelle création en arts du cirque par les compagnies dites de grande envergure soutenues à la mission au Conseil des arts et des lettres, CALC, n'est prévue pour 2025. Ces compagnies privilégieront les tournées de reprise sur les grandes scènes internationales, y lit-on. les compagnies de cirque feront-elles de moins en moins de cirque? La question y est crûment posée. Plusieurs compagnies misent sur des reprises pour 2025, mais le répertoire du cirque québécois n'est pas si développé. C'est essentiellement le Cirque du Soleil qui a travaillé ça, commente Nadia Drouin, directrice générale d'Empiste. Et vendre du répertoire est un pari. Ce n'est pas dit que le diffuseur étranger, à l'international, va être aussi excité de reprendre un show que d'accueillir une création, explique la directrice. C'est le manque de moyens financiers que met la création en cirque en arrêt. Si on imagine que le cirque est riche, c'est que les premiers succès du Cirque du Soleil, ses spectacles à Las Vegas et l'opulence excentrique d'un fondateur comme Guy Laliberté, capable de se payer un voyage dans l'espace, ont imprégné nos souvenirs, comme l'ont nommé différents acteurs du milieu interrogés par Le Devoir. Mais c'est comme conclure que la chanson québécoise va bien parce que Céline a du succès, résume autrement Tim Roberts de l'École de cirque de Québec. En réalité, le cirque a un retard historique à combler en financement au fonctionnement de base, clarifie Nadia Drouin. Seuls 6 organismes reçoivent ces subventions de soutien à la mission du calque, dont la TOHU, un diffuseur, qui présente mais ne produit pas les spectacles, en déficit de 2,1 millions de dollars, et Empiste, le regroupement des arts et artistes du cirque, qui compte 600 membres. Les Sept Doigts, l'Aubergine, le Cirque Éloise et Flip Fabrique, à Québec, sont les seules compagnies financées de manière récurrente. Une trentaine d'autres peinent parce qu'elles dépendent de financements ponctuels et doivent sans cesse repartir à zéro, continue le mémoire. Les tournées Gruyère. Le cirque a réussi à entrer au calque comme discipline en 2001-2002 parce qu'il ne demandait pas tant d'argent, parce que l'exportation des spectacles comptait pour 80% à 90% des revenus, rappelle de vive voix Mme Drouin. Maintenant, ce montage financier, soutenu de 80% à 90% par l'exportation, complété par les shows corporatifs, ces présentations vendues au privé, n'est plus équilibré. Les compagnies me disent qu'elles ont repris leur tournée à 80% depuis la pandémie. C'est déjà pas mal, mais ça ne suffit pas, poursuit-elle. L'étude, le cirque au Québec en 2024, situation économique, financement public et écho du terrain, dirigée par l'économiste Philippe Goujon, capte l'avant et l'après de la pandémie. Une forte baisse du chiffre d'affaires international s'est produite en 2020 d'environ 370 000 $ par rapport à l'année précédente. Si ce chiffre remonte depuis 2023, il reste loin du niveau pré-pandémique. Il atteint moins de 100 000 $ comparativement à 485 000 $ en 2019. L'enjeu, présentement, c'est que les tournées sont comme du gruyère. Il y a de gros trous entre les spectacles. Ça engendre des coûts énormes, que ce soit parce que tu dois payer ton équipe pour rester là-bas en attendant ou parce que tu la fais revenir au pays et repartir, clarifie encore la porte-voix d'Empiste. La trentaine de diffuseurs prêts à accueillir du cirque au Québec ne peut compenser l'accueil que les scènes internationales faisaient auparavant au cirque d'ici. Acrobatie budgétaire. Du côté du financement public, au calque, la part accordée au cirque représente à peine 4,5% des subventions aux arts de la scène. Selon la firme App Echo, citée dans le mémoire, le cirque draine 7,7% de l'assistance totale et 11% des revenus de billetterie. Au Conseil des arts du Canada, la part versée au cirque tourne autour de 2,3%. Elle était de 3,3 millions de dollars en 2021-2022 et de 2,8 millions en 2022-2023. Un des problèmes des budgets à l'encre rouge des compagnies, c'est la conséquence sur les artistes, leurs entraînements, leur capacité à conserver leur niveau de virtuosité et leur capacité de créer. Il faut savoir qu'en cirque, c'est l'artiste qui compose son numéro. Le metteur en piste ou en scène l'intègre et l'adapte ensuite dans l'univers général du spectacle. Mais la création dépend de la capacité des artistes à créer, à composer et à tester dans les espaces d'entraînement leurs numéros. Dans le jargon du calque, ça n'existe pas, l'entraînement libre. Pourtant, au cœur du quotidien des circassiens. Ce n'est pas soutenu financièrement. Ce sont les organisations qui reçoivent le soutien à la mission qui offre ce service à perte, explique Nadia Drouin. Pour s'entraîner, les artistes déboursent des frais de location minimes autour de 5 $ l'heure parce que de toute façon, ils ne sont pas capables de payer plus, dit-elle. Mais les coûts sont nettement supérieurs, engendrés par la gestion, la vérification des équipements, la sécurité et la supervision, parce qu'on ne peut pas laisser un acrobate s'entraîner seul. Il y a trop de risques en jeu, qui tiennent de la nature même du cirque, enchaîne la directrice. Cirque du soleil ou cirque de ficelle? Qu'est-ce qui aiderait le cirque québécois? Une augmentation des crédits que le gouvernement Legault accorde au calque à 200 millions de dollars, nomme la directrice d'Empiste, qui fait partie du Front commun pour les arts du Québec et reprend ses revendications. L'étude économique, elle, conclut que si les entreprises font moins de spectacles à l'étranger et dépendent davantage du marché canadien et québécois, leurs revenus autonomes sont en hausse et suivent l'évolution de l'inflation, évitant ainsi un appauvrissement. Cela peut être vu comme une bonne chose, mais signale aussi une absence de croissance. Sachant que l'industrie du cirque offre des salaires faibles et du travail à temps partiel, l'absence de croissance dans l'industrie du cirque maintient ses artisans dans une posture précaire. Finalement, le rapport argue que le financement public du cirque est insuffisant au regard de sa contribution économique. À parité avec les autres disciplines artistiques, le cirque verrait ses revenus venant de sources publiques être multipliés par 2 à 2,5 fois, note-t-on. C'était « Aucune des grandes compagnies de cirque du Québec n'a les moyens de créer un nouveau spectacle en 2025 », un texte de Catherine Lalonde paru le 10 février 2025 dans Le Devoir.